Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, 11h à Abidjan.
Karine Bellichat.
À la une, la base militaire ivoirienne de Port-Boué n'appartient plus désormais à la France. Une cérémonie de rétrocession vient d'avoir lieu. Franck Alexandre Yetey nous racontera une passation de pouvoir dans un climat détendu. Difficile d'imaginer une réconciliation entre les États-Unis et l'Ukraine après les propos incendiaires de Donald Trump, estimant que Volodymyr Zelensky est un dictateur responsable de la guerre contre la Russie. Pourtant, l'émissaire américain doit rencontrer le président ukrainien aujourd'hui à Kiev. L'atmosphère s'annonce glaciale. En France, le Premier ministre est toujours dans la tourmente de l'affaire Betarame. Était-il au courant? Est-il intervenu pour étouffer le scandale de violence physique et sexuelle dans cette établissement catholique, il nie toujours. Les témoignages de victimes affluent, des récits terrifiants. Le drapeau ivoirien flotte seul désormais au-dessus de la base militaire de Port-Boué près d'Abidjan. Celui de la France a été abaissé. La cérémonie de rétrocession vient de se terminer. Elle s'est déroulée dans un climat détendu car il s'agit d'une démarche concertée, mais il s'agit d'une nouvelle étape de la reconfiguration militaire tricolore en Afrique qui ne reposera plus sur des bases permanentes. Franck Alexandre a assisté à cette passation de pouvoir.
Et la première étape de cette rétrocession ce matin du camp militaire de Port-Boué s'est jouée à l'entrée du camp où les militaires français de garde ont cédé leur place à l'armée ivoirienne. Image bien plus que symbolique puisqu'elle scelle le contrôle par la Côte d'Ivoire de ce camp militaire français historique qui, des décennies durant, a épousé les contours de l'histoire ivoirienne. Roulement de tambour sur la place d'armes, sous le regard des ministres ivoiriens et français de la Défense et des plus hautes autorités militaires, le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schille, est présent ce matin ici à Port-Boué. Date importante d'une mutation de la présence française amorcée il y a déjà quelques mois. Mutation qui ne signifie pas un départ français. Les autorités ont loué l'excellence du partenariat militaire franco-ivoirien. Au gré des formations et des exercices, des soldats français seront donc toujours régulièrement présents en petit nombre et pour de courtes missions à Port-Boué, camp militaire désormais pleinement ivoirien. Franck Alexandre, Port-Boué, RFI.
Dans quelle ambiance va se passer l'entretien entre le président ukrainien et l'émissaire américain à Kiev aujourd'hui, après les déclarations au vitriol de Donald Trump, qui estime entre autres que le président ukrainien est un dictateur? La rencontre Volodymyr Zelensky, Kiskelog peut-elle apaiser les tensions? Rien n'est moins sûr, tant la nouvelle administration américaine semble reprendre le narratif du Kremlin, considérer que Kiev est responsable du déclenchement de la guerre, malgré l'invasion russe. La charge de Donald Trump concerne aussi l'Europe, qui a échoué, selon lui, à apporter la paix en Ukraine. Deux jours après une première réunion lundi à l'Élysée, Emmanuel Macron a réuni hier 19 chefs d'État et de gouvernement de pays membres des 27 et de l'OTAN en visioconférence. Aujourd'hui, le président français reçoit les chefs de parti à l'Assemblée pour faire le point. Il est attendu aussi à Washington la semaine prochaine, peut-être dès lundi, selon le président américain. Emmanuel Macron en première ligne sur le dossier ukrainien. François Bayrou, lui, est toujours empêtré dans l'affaire Betarame, du nom de cet établissement scolaire catholique dans le sud-est de la France, où de nombreuses violences physiques et sexuelles auraient été commises pendant des décennies. Le premier ministre, maire de Pau, est soupçonné d'avoir eu connaissance des premières accusations dans les années 90. Malgré ces dénégations répétées. Du côté de l'enquête à présent, trois hommes sont toujours en garde à vue ce matin, des gardes à vue antérieurs à l'éclatement de l'affaire sur le terrain politique. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour.
132 plaintes ont été recensées à ce jour par le collectif des victimes de l'établissement, de nombreux témoignages dont la presse se fait l'écho.
Oui, ce sont des témoignages terrifiants, on peut le dire, qui racontent une scolarité jalonnée de coups, de sévices, d'humiliations quotidiennes par des surveillants, des professeurs, des religieux de cet établissement catholique. Dans leurs témoignages, ces anciens élèves décrivent l'enfer dès les premiers jours. Olivier, par exemple, à nos confrères de France Info, il raconte les punitions disproportionnées. Parce qu'il se ronge les ongles, il reçoit de violents coups de règle sur les doigts jusqu'à en avoir des séquelles. Un autre jour, ce sont des coups de pied dans le ventre et dans la tête pour une simple bille tombée par terre. Égare à ceux qui résistent, vous en preniez 10 fois plus, dit encore Olivier, qui se remémore des bouts d'oreilles arrachés chez certains élèves rebelles.
Des sévices physiques, psychologique, mais aussi sexuelle, Baptiste, qui aurait perduré près de 50 ans dans l'omerta la plus totale.
Oui, les faits sont susceptibles d'avoir été commis entre 1957 et 2004, 47 ans d'une violence qui semble institutionnalisée jusqu'au plus haut sommet de l'établissement et jusqu'à très récemment. Adrien, que j'évoquais à l'instant, est scolarisé à Bétaram entre 2003 et 2005. Il évoque les toilettes où il subit des agressions sexuelles par d'autres élèves qui s'ajoutent à des actes pédocriminels, des frottements de certains prêtres, explique-t-il, mais personne ne disait rien. L'omerta, l'absence de considération de la parole d'un enfant dont certains avaient pourtant alerté à l'époque, c'est ce que dénoncent les associations. Mais les trois gardes à vue du jour sont une immense victoire pour le président du collectif des victimes de Bétaram et preuve que le voile de l'omerta se dissipe peu à peu. Sur les 132 plaintes recensées par le collectif, une quinzaine ont été déposées ces derniers jours.
Terrible témoignage. Baptiste Coulon du service France d'RFI. Et comment se porte la solidarité en France, même si les derniers chiffres indiquent que le nombre de donateurs aux associations est stable et que 2/3 des Français donnent ou font du bénévolat, la situation est en train de changer selon une étude de Landes, le réseau des épiceries solidaires, qui enregistre moins de dons et plus de demandes de prise en charge cette année. Alors comment font ces épiceries pour faire face? Benoît Narbonne s'est rendu dans l'un de ces centres en région parisienne, à Arcueil. Écoutez son reportage.
Il est 10h, les premiers bénéficiaires entrent faire leurs courses à l'éclaircie, parmi eux Stéphanie, mère célibataire de 3 enfants.
Comme légumes, je crois que j'ai pris de la patate douce, enfin, j'ai pris beaucoup de fruits, parce que mes enfants consomment beaucoup de fruits, des clémentines, des oranges, des kiwis.
Les économies réalisées lui permettent de payer ses factures. Elle fait partie des 45 familles inscrites à l'épicerie solidaire. C'est son assistante sociale qui l'a orientée ici.
Et là, en fait, je suis en congé parental et mes ressources sont largement diminuées. Vu que j'ai plus de paye, je me retrouve à l'épicerie parce que j'en ai besoin. Heureusement qu'il y a ça parce que je ne sais pas comment je ferais. Parce qu'il y a des choses comme le lait, je vous dis les couches, c'est des choses qui coûtent relativement cher. Et du coup, en commerce, je ne pourrais pas les financer.
Ici, les produits ne sont pas gratuits mais ne coûtent que 10% du prix en magasin. Une démarche qu'explique Corinne, bénévole de 8 ans.
Je pense que pour l'estime de soi et pour pas avoir l'impression qu'on fait complètement la charité. C'est une petite participation, mais c'est une participation quand même. Ils ont l'impression d'acheter. Ça leur permet aussi de choisir ce qu'ils veulent. C'est pas comme dans certaines autres associations où on leur donne un panier tout fait.
Ces épiceries solidaires ne fonctionnent que grâce aux bénévoles qui sont de plus en plus difficiles à trouver.
C'est assez chronophage comme activité bénévole. On est obligé d'ouvrir toute l'année, toutes les semaines, sans interruption, donc c'est un petit peu compliqué parfois.
L'épicerie propose fruits, légumes, œufs, viande, couches ou produits d'hygiène. Certains proviennent de collectes ou de banques alimentaires, mais une grande partie est achetée. La part des dons de magasins a baissé, comme l'explique Catherine Bouzou, responsable de l'éclaircie.
Les magasins vendent à 30-40%, donc les gens bien sûr achètent. Et après, ce qui leur reste, c'est ce que personne n'a voulu acheter. Donc souvent c'est de très mauvaise qualité ou alors les produits ils ont 2-3 mois périmés, ça n'a plus de sens pour nous.
Elle a décidé d'arrêter la récolte en magasin dès le mois prochain. L'éclaircie n'est pas une exception. De 2022 à 2023, les dons récoltés dans les magasins ont baissé de 29%, estime Landes. La capacité maximum de l'épicerie est de 45 familles. Elles sont inscrites sur une période de 6 mois, renouvelable une fois.
Il va y avoir plus de dossiers, bon. Il y a des familles qui vont sortir, il y en a des nouvelles qui vont arriver, ce qui permet qu'il y ait plus de familles arcueillaises qui puissent avoir accès à l'épicerie.
Plus de 2/3 des épiceries solidaires indiquent être au maximum de leur capacité d'accueil, alors que les demandes de bénéficiaires augmentent.
C'était le reportage de Benoît Narbonne à Arcueil, en région parisienne. Dernière ligne droite avant les élections en Allemagne, un scrutin crucial dimanche. Les conservateurs sont en tête des sondages. L'extrême droite pourrait faire un score historique. Lors du dernier débat télévisé hier soir, le chef de la CDU, Friedrich Merz, a appelé les Allemands à lui donner un mandat fort pour réformer le pays et contrer l'ascension de l'AfD. Un mot de foot et les résultats des matchs de barrage en Ligue des Champions. Le Real Madrid a assommé Manchester City 3-1. Kylian Mbappé a réalisé un magnifique triplé hier soir. L'équipe madrilène s'offre donc un ticket.